Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
D'ouvrir votre Bible dans la lettre de Paul aux Philippiens. Alors, qu'est-ce que nous dit l'apôtre ? Philippiens, chapitre 2, et je ne vais prendre que un seul petit verset, une simple petite phrase. Alors, Philippiens, je le répète, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui était en Jésus-Christ. Permettez-moi de le relire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, d'abord, la première chose qui est à dire, c'est de savoir qui est Jésus. Tout le monde n'est peut-être pas au fait de cette personnalité unique, exceptionnelle, universelle, qui est Jésus. La Bible nous en parle. Et nous allons plonger nos regards finalement dans ce livre. Et puis il y a en effet un mot qui nous interpelle, sur lequel j'aimerais que nous méditions ce soir, c'est le mot « sentiment ». Voilà. Qui peut se décliner avec toutes sortes de synonymes que nous connaissons, que nous employons, mais bon, en tous les cas, on peut peut-être le traduire par affectivité, par toutes sortes d'autres mots qui correspondent, mais le mot sentiment, nous le connaissons. Sentiment diversement, vécu. Et j'aimerais justement, souligner une chose, c'est que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ceci, pour les hommes de son temps et comme pour nous-mêmes, il dit « ayez ». Ayez en vous. Ce n'est pas seulement de connaître l'existence de Jésus, c'est de le connaître personnellement, intimement, dans sa vie qui nous est rapportée dans l'Évangile, où Jésus a été le seul homme qui a manifesté des sentiments purs, justes, vrais et saints. Je crois qu'il faut mettre les choses comme elles doivent être placées ce soir pour bien comprendre, et il nous est demandé de l'avoir, d'avoir en quelque sorte, de posséder, de pouvoir déclarer que ces sentiments ne sont pas uniquement vus chez les autres, mais chez nous, chez moi. Et de les avoir naturellement pour nous-mêmes, puisqu'il est question d'une forme personnelle. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, sur ce mot sentiment, j'aimerais faire un rappel bref. Nous sommes les tenants de la création venant de Dieu. Et dans cette création, il y a naturellement le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et l'humanité. Et quand il est question de sentiments, nous allons en discuter d'ici quelques instants, il est question de cet organe, mais cette dimension intérieure propre à l'homme, qui s'appelle le cœur, ou diversement décliné dans la Bible, ou tout simplement l'âme. Et c'est quelque chose qui fait la particularité de l'humanité. Alors, je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a dans le monde du vivant. Alors, c'est exclu naturellement les minéraux. Mais dans le monde du vivant, il y a trois catégories. Il y a les végétaux, il y a les animaux, et il y a l'homme. Alors, si nous prenons par exemple les végétaux, il y a une vie végétative. Elles sont formées d'un port, on appelle ça un corps si vous aimez mieux, un aspect physique. Mais c'est végétatif. Il y a l'absence de sentiments. Même chez les cactus, quand vous piquez le doigt, ils ne le font pas exprès. Voilà, donc... Et ce monde nous environne partout, et on a besoin finalement de ce monde-là. Il y a le monde des animaux, et c'est une vie animée, parce que là, ils bougent, ils vont, ils se déplacent. Et il y a, nous pourrions dire, des sentiments primaires, Hein, le chien est attaché à son maître. Hein, les animaux domestiques sont attachés à leur maître. Donc une vie primaire, une vie tout simplement sentiments, mais qui fonctionne et qui est régie par l'instinct. Ils sont proclamés pour ceci, cela. Le lion, instinctivement, lui ne fait pas de sentiments parce qu'il faut qu'il mange, il va tuer la gazelle. Et il ne va pas avoir de remords, hein, ni une culpabilité, hein, parce qu'il est programmé à cela. Dans la reproduction des animaux, ils sont programmés aussi de cette manière. Et puis dans bien d'autres choses. Donc, c'est une vie primaire, en quelque sorte. Le sentiment est primaire. Et puis il y a l'humanité, qui est quand même, est-ce que je dois le dire, le chef-d'œuvre de la création quand même, non? Maintenant, on pourra toujours dire, on pourra toujours discuter, quand on en voit naturellement eh bien, les effets. Mais Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec une âme. Il l'a créé avec une âme, il l'a créé avec des sentiments qui sont des sentiments évolués. On va en parler d'ici quelques instants. Il y a eu quelque chose qui a été donné. Ce n'est pas une évolution du petit poisson ou du singe. Voilà, non, c'est pas ça. Hein, la Bible parle d'une création. Et nous voyons que ces sentiments chez l'homme sont très complexes. Quand l'homme est très basique et qui quelquefois, eh bien, ses réflexes sont plutôt à la ressemblance des animaux, alors à ce moment-là, eh bien, c'est très triste parce que la dimension que Dieu voulait pour lui, c'était quand même autrement, autre chose. Mais ce sont des sentiments complexes. Alors, j'aimerais justement que nous puissions un peu voir la situation. Et en ce qui concerne les sentiments, si je devais titrer notre réflexion, je dirais le sentiment, les sentiments, girouette ou boussole. Ah oui. Alors, on rentre dans un autre domaine, mais est-ce que les sentiments, eh bien, relèvent finalement de la girouette qui bouge avec le vent, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui nous indique véritablement la direction, comme une boussole, qui nous montre le but, en quelque sorte. Alors, j'aimerais que vous donner quelques pensées que nous allons détailler, et puis je vous parlerai également de quelques textes bibliques qui étayent ce que nous allons dire, ce que nous allons partager. Dans l'humanité, le phénomène est universel, le sentiment. C'est universel, que l'on soit en effet dans nos pays occidentaux, ou que ce soit peut-être dans les tribus les plus primaires, c'est quelque chose qui caractérise l'homme, naturellement. Et je dirais que le sentiment a un habitat, c'est-à-dire un lieu où il demeure, un lieu où il évolue d'une manière ou d'une autre. Et cet habitat, nous l'avons dit, c'est l'âme. Voilà, c'est l'âme. Alors vous allez me dire, où se trouve votre âme? Où se trouve mon âme? Alors, même si on passait une radiographie, je pourrais peut-être pas vous le situer, hein. Vous demandez à un médecin radiologue, je voudrais que vous fassiez une radiographie de mon âme. Alors, faut peut-être aller voir quelqu'un d'autre, parce que là, ça va peut-être le faire sourire, hein. Voilà, si vous lui demandez, eh bien, une radiographie cardiaque, il va savoir, et le reste. Et pourtant, c'est une réalité très importante dans notre vie d'homme. Eh oui, parce qu'autrement, nous ne serions pas ce que nous sommes. S'il n'y avait que finalement, eh bien, le physique, la corporalité, la matière. Mais l'homme est fait, bien au-delà, par-delà le monde animal, avec quelque chose qui le caractérise. Naturellement, c'est son âme. Et avec tout ce que ça peut avoir, le sentiment, les sentiments impactant la vie. Parce que, vous allez le voir, vous allez le découvrir, je vais faire quelques rappels de choses très très basiques, mais vous allez voir que c'est quand même ce qui dirige notre vie. Parce que on peut peut-être avoir cette vision de l'extérieur, de celui qui est devant moi, je le vois dans son corps, etc., je l'identifie, je le reconnais, il porte un nom, etc. Mais à l'intérieur de moi-même, il y a un fonctionnement qui me donne de l'appréhender. Et plus je connais une personne, eh bien, à ce moment-là, je vais voir que ce n'est pas seulement son corps. Son corps ne serait pas, finalement, comment dire, entre guillemets, il ne serait pas vivant s'il n'y avait pas son âme. Parce que ce qui donne la réalité au corps, la vie, tout simplement, son existence, la réalité de son existence, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça ne se voit pas. Et pourtant, on appellera ça la personnalité. L'identité profonde de la personne, le moi, ce qui est vraiment ce que je suis. À travers eh bien une identification parce que je porte un nom, je fais un métier, j'ai telle connaissance, j'ai telle acquisition dans tel ou tel domaine, et c'est ce qui fait l'enrichissement de ce que je suis. Voilà. Alors, ça impacte profondément la vie. D'ailleurs, quelqu'un qui est mort, un corps mort, ben on sait très bien qu'il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien. L'identité profonde, la personnalité n'est plus là de toute façon. Je voudrais simplement vous rapporter ce que tout le monde sait naturellement, qu'il y a 12 sentiments cardinaux. Il y en a plus que ça, mais principaux, cardinaux. Et vous allez voir que après il y a une multitude, je dirais même, de ramifications à l'infini. Les sentiments désagréables que nous appréhendons, que nous connaissons, l'inquiétude et le souci, voilà. Parce qu'on a des soucis, on est inquiet, et ben c'est pas pour ça qu'on va boiter, c'est pas pour ça qu'on va être aveugle. Mais c'est quelque chose qui nous impacte à l'intérieur de nous-mêmes. Le souci va nous toucher profondément. Ça va avoir une incidence sur notre vie, même peut-être notre vie physique, mais pas à travers une infirmité ou à travers une maladie, bien qu'il y ait les maladies psychosomatiques qui peuvent aussi avoir une incidence en raison de ce qu'il y a de qui ne va pas. La colère, par exemple, c'est un sentiment négatif, c'est un sentiment que nous connaissons. La jalousie, ça fait partie aussi du sentiment. La honte, vous savez, quand on commence à rougir, c'est le sang qui monte à ce moment-là. Et ça, c'est l'âme qui commande cela, devant une faute, devant toutes sortes de choses. Le dégoût, le rejet, alors que ce soit des choses, des situations ou des personnes. C'est la tristesse aussi, ça c'est un sentiment négatif. Nous pouvons l'éprouver lorsque nous perdons des êtres chers. Il y en a peut-être qui pleurent davantage de perdre une chose que de perdre des êtres chers. Ça c'est être déshumanisé, naturellement. Et puis il y a la confusion, qui peut se ressembler à la honte, de plus savoir où on en est rendu. Et parce qu'on est dans la confusion, finalement, toute la vie s'arrête dans un certain sens. On ne sait plus où on en est rendu. Et puis, il y a le vide. Le vide. Qu'est-ce que c'est? On ne sait plus qui on est. Il y a des maladies psycho qui ont cet aspect, enfin cette révélation en quelque sorte, c'est que les gens ne savent plus où ils en sont rendus. Leur âme, voilà, ne savent plus. L'angoisse, ça c'est le vide. Et les gens ne savent même plus qui ils sont. Ils ne vivent plus en quelque sorte, même s'ils sont des zombies, même s'ils sont encore présents de corps, mais ça c'est aussi des sentiments, le vide. Il y a les sentiments agréables, il y en a moins, mais ils sont plus forts. C'est l'amour. Et là, c'est, il n'y a rien qui peut égaler finalement, l'amour. L'amour c'est quoi? Lisez la Bible, vous verrez, qui triomphe de la mort, qui triomphe de tout, de la haine, qui triomphe de toutes ces choses. Ça c'est un sentiment. Et puis, il y a également la joie. Alors la joie, ça dynamise, ça. Quand on a une bonne nouvelle, quand on vient de toucher 45 millions d'euros, voilà, Non, vous avez l'air de douter un petit peu, Oui, on remarque que c'est pas tous les jours. Alors, l'amour, la joie, le bonheur, c'est un sentiment aussi, d'être heureux. Mais on n'en est pas toujours conscient d'être heureux. Moi, je suis sûr que on vit dans bien des situations où on ne sait pas qu'on est heureux. C'est quand on a perdu le bonheur qu'on se dit « je suis malheureux maintenant ». C'est dommage, Et puis, il y en a bien d'autres. Mais quoi que je voudrais dire que tout cela, que ce soit dans les sentiments désagréables ou les sentiments agréables, toutes les combinaisons, des combinaisons sont possibles à partir de ces sentiments positifs ou négatif. Le sentiment humain fait la passerelle, si vous permettez l'expression, entre le monde extérieur et le monde intérieur à moi-même. J'appréhende, naturellement mes yeux voient, mes oreilles entendent, mais il y a une compréhension, il y a quelque chose qui va se faire entre l'extérieur, qui peut m'attrister ou qui peut me réjouir. Donc c'est une passerelle le sentiment, c'est ce qui me permet d'identifier, c'est ce qui me permet d'avoir la conscience des choses. C'est important, imaginez-vous que si nous n'étions pas cela, que nous étions réduits comme des animaux, par exemple, état primaire, ou encore végétatif comme les plantes, ça serait quelque chose, mais nous connaissons une autre dimension. Donc le monde extérieur est celui de l'intérieur à nous-mêmes, et le vecteur en quelque sorte de cette conscience. Que je sois malheureux ou que je sois heureux, que je sois dans la joie ou que je sois dans la peine, Notre perception que nous avons, ce sont nos sens, c'est-à-dire mes yeux, mes oreilles, le goût, enfin, que je goûte, hein, les facultés gustatives, l'odorat, puis genre, il m'en manque le toucher, voilà, hein, 5. Voilà, c'est ce qui donne la vie finalement à tout cela. Dieu m'a doté en me créant à la fois pour me propulser dans la carrière du monde extérieur avec une conscience à l'intérieur qui me permet d'appréhender toutes ces choses. Je suis un être avec des sentiments divers, différents, tantôt dans le bien, tantôt dans le mal, mais je suis ainsi. Dieu a voulu que nous soyons créés ainsi. Le rôle, avant d'arriver à des exemples bibliques, le rôle, le sentiment me permet d'agir ou de réagir, tout simplement. Ou alors, ce sont contraires, c'est la passivité. Je réagis plus. Donc mon âme est malade quelque part, parce qu'elle a pour fonction finalement eh bien, d'agir et de réagir, tout simplement. Et si je ne réagis plus, c'est quelque chose qui va me paralyser. Vous savez, il y a des gens, je parlais du mot zombie tout à l'heure, je citais le mot zombie. Il y a des gens qui sont complètement, ils sont ailleurs. Alors peut-être par des faits de traitements médicamenteux, hein, par des traumatismes immenses et énormes qu'ils ne peuvent pas surmonter, et on s'aperçoit qu'ils sont là, mais sans être là. Voilà. C'est plus que d'être dans la lune, hein. C'est encore autre chose. Ils ne vivent plus. Mais ils sont là, ils sont vivants, si vous voulez, mais ce n'est pas la vie. Et quelque part, ce rôle nous amène à prendre des décisions. Notre âme, parce que je vois ce que j'entends, etc., etc., elle va réagir. Si elle ne réagit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais par contre, il va y avoir des prises de décision, ce que l'on peut appeler des choix. L'animal a des choix très limités, très basiques, très primaires. Mais l'homme a une multitude de possibilités. Tout dépend naturellement eh bien, de son orientation, de sa connaissance, de ce qu'il sait être bien, de ce qu'il sait être mal. Donc, le sentiment qui fait ma personnalité, enfin qui fait composante de ma personnalité avec la conscience, nous l'avons dit, avec l'intelligence, avec la pensée, l'imagination, etc., etc. Je parle de tout cela, hein, et nous nous apercevons que ça nous permet de statuer, d'exercer notre libre arbitre pour ce qui est bon, pour ce qui est mauvais, pour celui qui connaît la parole de Dieu, pour celui qui a une conscience morale, eh bien il saura naturellement. Maintenant, s'il ne sait pas, faut lui donner cette connaissance. Et après, ça sera à lui d'agir. C'est ce qui fait qu'il y a une différence entre ceux qui savent, qui connaissent Dieu, et ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui ne veulent pas le connaître. Ceux qui aspirent à le connaître. Vous comprenez, il y a toutes sortes de chemins pour parvenir à tout cela. Donc, prise de conscience ou de décision de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le langage du sentiment. Alors là, c'est autant qu'on puisse l'imaginer, parce qu'il y a l'âme artiste. Il y a l'âme rationnelle. Il y a l'âme qui véritablement eh bien, est fixée uniquement sur l'intelligence, sur tant d'autres domaines qui ne me viennent pas tout simplement à l'esprit. Et le langage du sentiment peut passer du sublime à l'abject, le plus total. Ça, c'est sûr. Quand on voit que l'homme, créature de Dieu, est capable d'écrire des symphonies, d'écrire des choses extraordinaires, pas toujours sur Dieu, hélas, mais quand on s'en réfère à la Bible, quand on voit que la Bible en elle-même est un livre merveilleux de la culture, cette culture qui est repris en sous-main par le Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Les psaumes, la musique, enfin toutes sortes de choses qui nous sont décrites, parce que c'est un livre formidable, hein. Dans le livre des psaumes, les livres poétiques par exemple, quelle inspiration! Et quelle inspiration aussi ont ces hommes qui se sont attachés à Dieu et qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont écrit à la fois des cantiques, enfin des chants si vous voulez, aller par là, et puis ont composé des musiques extraordinaires à la gloire de Dieu. Voilà. Et vous avez le contraire. Vous avez des musiques qui sont inspirées tout simplement de l'enfer. Et ça se voit, pas seulement ça s'entend, mais ça se voit, hein. Parce qu'elles sont marquées, il y a une marque, il y a un signe dessus. Alors, ça, c'est le sentiment. On peut le dire de cette manière. Il y a derrière le sentiment des causes et des conséquences aussi. Je prendrai qu'un exemple contrasté, le vrai et le faux, la vérité et l'erreur. Et le fruit en sera selon leur nature. Si moi je sème avec mon âme dans cette dimension de l'âme que Dieu m'a donnée, et que je sème des choses qui, finalement, dont les bases, dont l'inspiration, c'est la vérité, automatiquement le fruit sera la vérité et la bénédiction. Par contre, le contraire est de même, hein. C'est ce que Jésus nous enseigne dans le sermon sur la montagne. On reconnaîtra l'arbre à son fruit. Tout dépend où sont fixées les racines. Si elles sont dans l'acidité, dans la haine, dans l'amertume, dans tout le rejet de l'autre et la haine de l'autre, ou la haine de Dieu, automatiquement, eh bien, les fruits seront en conséquence. Et vous savez qu'il y a des gens qui aiment, finalement, eh bien, cette production-là, de la haine, du racisme et de tout ce que vous voulez, hein. Il y a des gens qui s'en régalent, parce que leur idée, celui qui les inspire, c'est la destruction. Destruction. Or, le contraire, c'est la vie. C'est la gloire de Dieu. Et c'est toujours, eh bien, un bénéfice. Et lorsque ça va dans le mauvais, le fruit mauvais, eh bien, c'est le fléau du préjugé. Combien Jésus a été confronté? Jésus était un homme semblable à nous. Il avait un corps. Il était divin. Mais Jésus était humain aussi. Quand on voit que dans la Bible, il nous est dit à plusieurs reprises qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il a connu la souffrance, qu'il a pleuré, qu'il a connu tout ce que nous connaissons parce qu'il s'est fait homme, il a pris la condition des hommes pour ne pas être étranger à ceux qu'il venait pour sauver. Donc Jésus a connu tout cela, à l'exception d'une chose de péché. Mais quand on voit comment Jésus a été confronté avec cette mauvaise racine du préjugé par rapport à ceux qui auraient dû l'acclamer et qui l'ont rejeté puis crucifié, on s'aperçoit que là, il y a des causes derrière tout ça, et il y a des conséquences, forcément. Et c'est ce qui fait encore la différence aujourd'hui, dans le monde, et peut-être même dans notre monde à nous, le monde qui se réclame de Dieu, disons cela comme ça, ça sera peut-être plus simple, le monde religieux, où il n'y a que le fonctionnement de l'âme, avec peut-être des sentiments noble, humain, mais noble, mais religieux, l'âme, et puis le sentiment qui est spirituel. Parce que Jésus nous dit bien, si vous naissez de nouveau, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, ce n'est pas le religieux qui nous sauve. Ce n'est pas ce sentiment, même si, qu'il y a quelquefois, il y a peut-être des belles choses, mais on n'est pas sauvé en raison de notre âme, et à cause de notre âme, et par notre âme, on est sauvé parce que Jésus nous a envoyé son esprit. Et il faut que l'homme naisse de nouveau, à ce moment-là. Et on s'aperçoit que les pharisiens, ils n'étaient pas nés de nouveau, hein. Et pourtant, ils étaient extrêmement religieux. L'apôtre Paul était un homme, avant de devenir Paul, il était un homme qui était extrêmement religieux, zélé, tout ce que vous voulez. Mais il n'était pas né de nouveau, tout simplement. Alors, ça, ce sont des choses que je place devant vous, mais je vais bientôt en finir avec cette petite présentation. L'équilibre et la maîtrise. En quelque sorte, l'équilibre ou la maîtrise ou l'irrationnel. Oui, le sentiment. Qu'est-ce que nous faisons avec nos sentiments dans cette affaire? Quelle place nous leur accordons? Est-ce que nous sommes tous affectes? Ou alors, à ce moment-là, eh bien, on laisse une place à cette œuvre de Dieu dans notre cœur pour nous transformer et nous changer. Et ça peut devenir, si nous laissons la bride quelque part abattu à nos sentiments, ça peut devenir aussi irrationnel. Et cet irrationnel dans le sentiment, et particulièrement dans le sentiment religieux, donne le fanatisme, l'intégrisme. Ah oui, parce que là, à ce moment-là, on ne tient plus compte de rien du tout. Nous avons raison et tout le monde a tort. Il faut que ceux qui ne pensent pas comme nous, eh bien, soient éliminés. Et ça, c'est pas seulement un fait religieux, mais ça peut être un fait politique, hélas, dont le monde connaît encore aussi les effets, hein, dont nous parlons tous les jours. C'est le sentiment. C'est pas l'esprit, parce que l'esprit, c'est naturellement une autre dimension. La prédominance ou le refoulement. Qu'est-ce que je fais avec mes sentiments? Est-ce que je vais leur donner leur place exagérément? Ou est-ce que je vais leur donner leur place et soumettre mes sentiments à la vie de l'Esprit de Dieu? Paul en parle dans ses épîtres. Il nous parle que de ça, en quelque sorte, hein. Il faut que vous soyez dépouillés pour être revêtus d'une personnalité nouvelle. C'est pas que Dieu va nous dépersonnaliser, mais il va prendre en sous-main, par le Saint-Esprit, et faire de nous des hommes nouveaux, changés. Ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ, nous l'avons lu. Donc, s'il nous est demandé de les avoir, c'est que peut-être que nous ne les avons pas tous. C'est que nous ne les avons pas du tout. Ou que nous devons y aspirer pour que ces sentiments, à l'exemple de Jésus qui est le parfait modèle, eh bien, nous inspirent. Prédominance de cet affect déréglé, ou alors de cet affect qui a été finalement sanctifié, on peut dire cela, ou le refoulement. Et le refoulement, c'est mortel aussi. Hein. Des sentiments, une affectivité du sentimentalisme qui est refoulée, ça fait des gens qui ne vivent plus non plus. Hein. Et qui peut-être vont contenir un certain temps, eh bien peut-être certaines choses qu'ils ont refoulées pendant des jours, peut-être pendant des mois, voire des années, mais le jour où le volcan va se réveiller, je peux vous dire que ça fait des dégâts. C'est comme la colère. Enfin, je prends le site sentiment, mais dans ce que nous avons dit tout à l'heure, la colère ou la haine, on ravale, et à un moment donné, l'occasion va nous être donnée. Alors là, c'est une déflagration qui va détruire les autres et qui va nous détruire nous-mêmes, avec beaucoup de dégâts. Ou du débordement à la passivité. Voilà. Alors, ceci dit, j'aimerais justement aborder une autre question, la raison et le sentiment. Parce que Dieu nous a donné aussi cette faculté de la raison, du raisonnable, de la réflexion, des choix. Et ça, c'est aussi, eh bien, à considérer. Sentiment et la raison. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce sujet? Elle nous dit tout simplement que dans cela, eh bien, de même, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout doit être remis entre les mains de Dieu. Donc, la première chose, et je le répète parce que nous sommes dans une réunion d'évangélisation, c'est la connaissance que Dieu nous donne à travers sa parole, qui, elle, va nous donner de connaître et de savoir. Je l'accepte ou je la rejette. Si je l'accepte, ma vie va changer. Si je la rejette, alors à ce moment-là, je resterai toujours ce que je suis. Mais ensuite, c'est une prise de conscience qui m'amène à la repentance. Que Dieu est Dieu et que moi, je ne suis rien sans Dieu. Jésus nous le rappelle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et puis, tout cela va m'amener à une prise de décision. Parce que je vais être touché dans mes sentiments, parce que l'appel de Dieu, c'est aussi eh bien, une interpellation dans mon âme, dans mon intelligence, mais ça c'est l'intelligence, c'est aussi une partie de mon âme. Dans mes sentiments, Dieu m'a fait intelligent pour que je comprenne, et que, en conséquence, j'agisse dans ce que je sais. Donc, m'amener à la repentance. Cette repentance va m'amener ensuite à un choix, c'est-à-dire de choisir Jésus, ce qu'on appelle la conversion. Et la conversion va aboutir à cette expérience qui vient de Dieu, parce que c'est la réponse de Dieu à ce que je lui ai demandé, ce que je crois maintenant qu'il m'a donné, parce que je le sais, j'ai une conviction, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et là, ma vie va être transformée et changée. Et tout va être, je l'ai dit tout à l'heure, impacté par cette influence, finalement, à l'intérieur de moi-même. Sentiment et raison. Sentiment et passion. Ça, c'est aussi un autre domaine. Je prends un des cas qui nous paraît tellement anodin. C'est que le sentiment peut être poussé à l'extrême dans la dimension de l'amour. Mais vous savez que les passions d'amour aveuglent. Et en principe, une passion amoureuse, elle ne dure jamais très longtemps. Parce qu'elle s'adresse non pas à la raison, là. Elle s'adresse à mon âme. Une âme qui est en quête. Une âme qui aspire, mais qui aspire non pas pour l'autre, mais pour moi, mon ego, mon égoïsme, à se satisfaire. Et tous les grands passionnés, il y en a eu qui ont écrit des romans, qui ont écrit toutes sortes de choses, hein, et on s'aperçoit que ça finit toujours très mal. Sentiment et passion, c'est destructeur. C'est la mort même. D'ailleurs, quand vous lisez les auteurs de cette période romantique qui était le 19e siècle, ils finissent tous par se suicider, se mourir ou s'assassiner les uns les autres. Enfin, c'est vrai, c'est toujours dramatique. D'ailleurs, dans tous ces romans-là, c'est souvent, avant tout, ça commence par, eh bien là, quelque chose de sentimental et ça finit par le drame. Eh oui. Parce qu'il n'y a pas Dieu dans tout ça. Il n'y a que l'homme, livré à lui-même et à ce désordre. Alors, il y a des sentiments qui peuvent me rendre heureux. avec ou sans Dieu, parce qu'il y a bien des gens, voilà. Mais moi, je voudrais vous parler des sentiments qui me rendent heureux à cause de Dieu, à cause de ma connaissance de Dieu. Ça, c'est autre chose. Et vous savez qu'il y a des sentiments qui peuvent nous rendre malades. Ah oui, maladie d'amour, hein. Je ne veux pas vous chanter, mais... Eh oui. Et les hommes n'ont jamais cessé depuis les temps immémoriaux à composer des chants, des musiques, toutes sortes de choses, où ils parlent que l'amour, ça les rend malades, ou le sentiment les rend malades, parce qu'il y a eu déception, parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu abandon. Eh oui, ça rend malade. Et puis, il y a aussi les blessures émotionnelles que les hommes s'infligent les uns les autres, à travers des traumatismes qu'ils ont du mal à se relever. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Aujourd'hui, le monde se penche en sociologie et en psychiatrie aussi, sur justement tous ces traumas qui sont là, et bien là, au niveau de l'âme humaine. Alors on essaie de trouver des solutions à travers de la chimie. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, en laissant parler les gens, mais... Bon, voilà, mais ça n'a qu'une limite, ça peut faire du bien, je veux bien croire. Mais la délivrance, où est-elle la délivrance? Parce qu'il s'agit de l'âme. Et quand Jésus, dans ses premiers discours, dans son premier discours à Nazareth, dira ces paroles, « Mais Dieu m'a envoyé pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, pour ceux qui ont le cœur brisé. » Qu'est-ce que c'est le cœur brisé? Sinon l'âme, sinon le sentiment, sinon l'intelligence qui a été complètement écrasée ou tout ce que vous voulez, aveuglée même. Sinon la mémoire aussi qui est malade, sinon la pensée et l'imagination qui sont malades aussi. Le sentiment est malade. Et il m'a envoyé pour, la guérir les cœurs brisés, pour rendre la vue aux aveugles, pour libérer les prisonniers et annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. C'est ça ce que le Seigneur est venu. Souvent nous avons mis l'accent dans l'évangélisation, dans nos églises charismatiques, sur le fait même que le Seigneur, et nous l'avons très souvent finalement dans les pages de l'Évangile, où Jésus se tourne vers l'aveugle, il le guérit, vers le boiteux, il le fait marcher, vers le sourd qui se met à entendre, et toutes sortes de choses comme ça. Jésus, nous l'avons, mais n'oublions pas que Jésus est venu guérir ce qui est invisible. L'angoissé, celui qui est avec des pensées suicidantes, pour l'arrêter au dernier tournant. Et toutes sortes de choses. Et nous voyons que tout cela, ça fait partie de la réalité de notre vie. Vous allez me dire, mais toutes ces réalités, cela n'aurait pas dû exister. Oui, ça n'aurait pas dû exister. S'il n'y avait pas eu l'introduction de la corruption, du péché et du mal dans le monde. Parce que nous avons été touchés dans toutes les dimensions de notre vie. Que ce soit le physique, la corporalité, que ce soit l'âme, le cœur, nous avons été touchés. Que ce soit le monde de l'esprit, où il y a tant de déviance dans le monde de l'esprit, à travers des fausses doctrines, à travers des sectes, à travers l'occultisme, à travers la magie, à travers toutes ces choses qui brassent et qui remuent le monde. Et les gens, je pense que quand ils ne sont pas finalement au fait de la situation, pensent qu'en se tournant vers ce monde spirituel, ils se tournent vers Dieu, mais ils ne sont pas vers Dieu. On ne se tourne pas pour rencontrer Dieu avec son âme, on rencontre Dieu par son esprit, qui rend témoignage à notre esprit que le chemin, c'est Jésus, qui est la vérité, qui est la vie, et qui est... Et quoi? Pardon? Ben dites-le-moi, parce que je l'entends pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, je vois que vous êtes réveillés dans votre âme. Alors, les blessures émotionnelles. Et moi, je voudrais vous dire pour... donner du corps, même si j'ai attendu de vous citer des versets bibliques, je vais vous en donner deux ou trois maintenant. C'est la guérison des sentiments. Peut-être que ça peut nous concerner les uns et les autres. Nous avons tous été touchés d'une manière ou d'une autre par des blessures sentimentales. Moi, c'est comme ça que je me suis converti. C'est pas parce que je m'étais cassé une jambe ou j'avais eu un accident de la route. Non. À l'intérieur de moi-même. Et aujourd'hui, nous sommes en train de produire des millions et des millions de jeunes, d'enfants, d'adultes qui vont devenir adultes et qui sont cassés à l'intérieurement. Ça ne se voit pas à l'extérieur. Ils vont pouvoir vous aborder avec le sourire. Ils vont pouvoir vous parler de la pluie et du beau temps, de leurs exploits ou tout simplement de ce qu'ils aiment dans la vie. Mais à l'intérieur, quand ils sont face à eux-mêmes, c'est une catastrophe. Laissez-les parler. Laissez-les dire les choses. raconter leur vie. Ils vous diront, mais c'est ainsi qu'est ma vie. Mais moi, je voudrais insister ce soir, c'est que Jésus est venu nous guérir dans nos sentiments. Pour retrouver une vie normale, une vie qui fonctionne, une vie qui sait faire la différence, qui est capable de prendre des décisions, de faire des choix pour le bien, pour notre joie, pour notre paix, pour notre bonheur. Et je crois qu'à ce moment-là, nous devenons, nous, guéris, délivrés, libérés, nous devenons des vecteurs de bénédiction en paix, en joie, en vérité pour les autres. Si nous sommes porteurs de trauma, enfin de traumatisme, eh bien à ce moment-là, nous allons le répondre quand un membre d'une famille est malade dans ce domaine. Alors il s'adonne à toutes sortes de choses pour oublier sa peine intérieure. L'alcool, la drogue, la violence, la colère, la brutalité, la vulgarité, toutes sortes de choses. Mais parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut être bien portant physiquement, mais à l'intérieur, il est malade. Et la Bible nous le dit donc que Jésus est venu guérir nos sentiments, nous libérer de notre affectivité, peut-être déviante, notre affectivité qui, eh bien là, a besoin véritablement de quelque chose. Écoutez ce que nous dit Pierre, et moi je pense que vous le savez, mais je voudrais quand même vous lire le texte, parce que il est quand même assez évident, dans 1 Pierre chapitre 2, et au verset tout simplement, alors je vais reprendre, voilà ce passage, verset 21, qu'est-ce qu'il nous est dit ? 21, et ensuite ce sera le verset 24, je reprendrai. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Appelés à quoi ? À être ses témoins, à être ses enfants, à être des hommes et des femmes sauvés par Jésus-Christ. Vous avez été appelés à ça, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous savez ce que nous avons lu tout à l'heure en premier ? Il nous est dit, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Mais Seigneur, quand je te vois et que je te comprends à travers la lecture de la Bible, je me dis, mais tu es si grand et moi je suis si petit. Toi tu es au ciel et moi je suis sur la terre. Et pourtant, cette parole est insistante, quand il est dit, mais ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus est en bonne santé, excusez-moi. Jésus a toujours été la santé et la vie. Et d'avoir ces sentiments, sentiments nobles, sentiments sanctifiés, sentiments purifiés, eh bien, il nous est demandé d'avoir ces sentiments en nous. Et si nous le lui demandons, eh bien, il va nous les donner. Mes frères et sœurs qui avaient été écrasés par la vie et dont les sentiments vous blessent, et peut-être ce que vous entendez ce soir vous fait peut-être du mal, mais ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'un seul cri vers le Seigneur, que vous apportiez votre détresse, votre angoisse en disant « Seigneur, guéris-moi de mes... De ma vie intérieure. Guéris-moi de mon histoire, de mon passé, de mes souffrances, de mes humiliations. Mais le Seigneur va le faire puisque nous avons été appelés à cela. Parce que vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez été appelés. Autrement, vous serez en train de regarder Thalassa et autre chose. Enfin, vous regardez ce que vous voulez. Mais toujours est-il que si vous êtes là, c'est que vous avez donné un choix de priorité. Et ce choix de priorité que vous avez fait en priorité pour écouter l'Évangile, c'est parce que c'est votre âme. Conduit par l'Esprit de Dieu, vous a dit, ben, tu vas aller à la réunion. Vous savez, nous, à chaque fois que prédicateurs, nous avons une réunion à préparer, nous nous tenons vendus en disant, qu'est-ce qu'il faut que je dise ce soir? Qu'est-ce qu'il faut que je dise cet après-midi? Eh bien, moi, je crois que le Seigneur nous conduit à vous parler. Mais c'est pas moi qui vous parle. Croyez bien que vous avez été appelé à cela, vous avez été appelé à entendre ce soir. Vous avez été appelé pour être interpellé de dire, Seigneur, guéris-moi dans mon affectivité. Malade, peut-être dévoyé même, je ne sais pas. Et au verset 24, il est dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés, avec toutes nos infirmités, avec toutes ses conséquences, avec tout ce gâchis de ma vie, il l'a porté en son corps sur le bois du calvaire, c'est-à-dire sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Vous avez remarqué comment c'est écrit ? Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Vous êtes guéri. C'est pas vous serez guéri. Parce que cette écriture est une écriture qui demeure hier, aujourd'hui, éternellement. Pour les hommes qui l'entendaient dans les premiers siècles du christianisme, pour nous qui l'entendons en 2015, eh bien c'est vrai pour nous. Et peut-être si le Seigneur n'est pas revenu dans 50 ans, dans 100 ans, eh bien ça sera aussi pour ceux. Nous aurons disparu, mais ça sera pour eux. Ils peuvent se laisser interpeller par le Saint-Esprit pour dire que cette parole, eh bien elle est pour eux. Et que Elle est pour eux parce que quelqu'un, 2000 ans ou 2000 et quelques années auparavant, a réglé le problème. Vous avez été guéri. Et moi, si j'engage ma foi ce soir en pensant que Jésus m'a guéri à la croix du calvaire parce qu'il a donné sa vie en sacrifice, eh bien, je suis guéri maintenant. C'est une question de foi maintenant. Alors, foi et sentiment, sentiment et foi, sentiment et raison. Je terminerai sur ce thème. On va ouvrir l'évangile de Marc, très brièvement. L'évangile de Marc, et je terminerai sur cela. Dans le chapitre 5, il nous est donné cette parole, que vous connaissez bien, je pense, pour la plupart d'entre vous. Je rapporte quelques mots de cette rencontre entre un homme qui s'appelle Jaïrus et Jésus. Cet homme vient avec un drame dans sa vie. Sa petite fille est à l'extrémité. Elle est près de mourir. Au moment où nous prenons le texte, on va lui annoncer que sa fille est morte. Alors on va le lire. Verset 35. « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte ». Pourquoi importuner davantage le maître ? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. 3 éléments dont nous venons de parler longuement dans le début de notre message. La raison, le sentiment, et puis également l'humiliation. La raison, c'est que là, on va venir annoncer à Jésus une évidence, sa fille est morte. Le deuxième point, c'est l'achoppement sur les sentiments. Mais tout le monde pleurait. Et la troisième chose, c'est l'humiliation. Parce que Jésus a dit qu'elle était vivante, eh bien, c'est l'achoppement de l'humiliation, être moqué pour notre foi, ou être moqué parce que Jésus nous dit la vérité. On revoit ça brièvement. Voilà que Jésus reprend la route pour aller dans la maison de Jaïrus, où se trouve cette petite fille, que l'on pense encore qu'elle est vivante. Elle est en train de vivre peut-être ses derniers instants, mais on pense qu'elle est vivante. Il y a encore de l'espoir, elle est vivante, bien que, au moment où ils sont sur le chemin, il y a là quelqu'un qui va, des serviteurs de Jaïrus, qui va se présenter devant Jésus et qui va lui dire cette terrible nouvelle. « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Ben oui, ça c'est l'évidence, c'est la raison, c'est la logique. Pourquoi déranger Jésus ? Qu'est-ce que l'on peut faire avec un mort ? On va l'enterrer. Y a-t-il encore un espoir quand quelqu'un est mort? Qu'on a assisté à son dernier soupir, on se dit maintenant, c'est fini. Ça, c'est la raison. Et quelquefois, eh bien, Dieu aussi nous interpelle à travers nos raisons, à travers nos calculs, à travers nos évidences. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, et je le dis à chaque fois que je prêche sur ce texte, c'est quand les hommes ont dit, c'est fini, Dieu nous dit, tout commence. Je suis tombé sur la tête ou quoi? Non, je suis pas fou. C'est quand on voit la suite, Jésus va répondre à cela. Il va dire quoi? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Alors, mes amis qui êtes là ce soir, vous dites c'est fini, parce que je suis sûr qu'au moins dans votre vie, peut-être dans votre toute nouvelle vie chrétienne, vous avez bien pensé plus d'une fois que c'était fini pour vous. C'était plus la peine de se préoccuper du Seigneur, qu'il n'avait rien fait, qu'il ne vous avait pas répondu. Et dire c'est fini. Eh bien justement, c'est là où Dieu nous dit, mais non, C'est ce que tu penses. Mais moi, ne suis-je pas le Dieu de la vie? Ne suis-je pas le Dieu qui est souverain sur la mort? Ne suis-je pas celui qui t'est appelé pour te montrer ma puissance, mes capacités? Alors ne crains point, crois seulement. Raison et sentiment, sentiment maintenant. Il nous est dit qu'ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, dont Jaïrus, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Et Jésus dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » L'écueil des sentiments qui peuvent nous faire vaciller, qui peuvent nous terrasser. Alors d'abord, Jésus vient d'apprendre et Jaïrus vient d'apprendre que sa fille est morte. Qu'est-ce que l'on peut faire? Jésus, c'est pas la peine d'aller plus loin. Moi, je continue mon chemin dans cette maison de deuil parce que mon enfant est malade, mon enfant est mort, pardon. Et puis, maintenant, c'est pas la peine de m'accompagner. Mais Jésus persévère. Ne crains point, continue, marche encore avec moi. Fais-moi confiance, ce que tu ne vois pas, tes yeux te trompent, tes sentiments te troublent. Ta raison est défaillante devant le drame de la mort. Il arrive, et voilà que les gens se mettent à pleurer. Et Jaïrus se rapproche de la chambre mortuaire où est sa petite fille. Il y a là tous les serviteurs et les servantes de la maison. Il croise le regard de son épouse, de sa femme, et tout le monde pleure. Il y a de quoi faire dégringoler la foi à ce moment-là. Parce que si on pleure, c'est que finalement cet enfant est morte. Contrairement à ce que Jésus nous dit, de continuer à croire. Ça, c'est encore une autre évidence. Le sentiment peut nous tromper. C'est pas parce que tout le monde pleure que les choses sont finies pour Dieu. Bien sûr, on pleure parce que c'est vrai qu'elle est morte. Mais Jésus, lui, a une réponse dans tout ça. C'est que de la mort, il peut faire sortir la vie. Parce qu'autrement, nous ne serions pas là ce soir. Alors, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? Et il va ajouter cette parole qui va être le troisième point d'achoppement peut-être pour notre foi dans une âme qui est confondue. Alors, ils se moquèrent de lui parce qu'il avait dit qu'elle était vivante et qu'elle dormait. Eh oui, l'humiliation. Être humilié parce qu'on ne comprend pas. Être humilié par des gens qui ne croient pas, par des incrédules, parce qu'ils ne s'arrêtent qu'à l'évidence de la raison, du cérébral. Et ils s'arrêtent, tout simplement, tout le monde est confondu parce que tout le monde pleure. Ouais. Parce que vous savez, dans une maison de joie, quand il y a de la joie, tout le monde a de la joie. Mais quand tout le monde pleure, tout le monde pleure. Et on fait pleurer ceux qui n'ont pas envie de pleurer. C'est pas vrai, ça? Eh oui, c'est... Ça, c'est comme les... Comprenez ce que je veux dire? Le soir, quand on a envie de dormir... Un bon bailleur fait bailler combien de personnes? Combien? Sept bailleurs. Oui, ben remarquez, c'est normal. C'est le chiffre parfait, hein. Voilà. Eh ben, c'est communicatif. L'incrédulité est communicative. La foi est communicative. C'est vrai. Et ça, c'est sûr. Alors, on va se moquer. Raison et évidence. Le choc de l'affectivité. On l'a vu. Et puis l'humiliation à travers la moquerie. Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va prendre la main de cette petite fille. Allez, jeune fille, lève-toi. Et cette jeune fille va retrouver la vie. Son âme est revenue en elle. Le souffle de la vie est revenu en elle. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Alors s'il l'a fait pour cet enfant qui était malade, mais qui a fini par mourir, et si de sa mort, il en a fait ressortir la vie, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? C'est une situation d'extrémité, ça. Eh bien, nous, est-ce que nous sommes à l'extrémité avec nos problèmes et nos difficultés? Non. Peut-être que vous souffrez, c'est vrai, mais nous ne sommes pas encore à l'extrémité. Bon, alors le Seigneur, il a encore une marge de manœuvre. Il a encore une grande marge de manœuvre et il ne vous abandonnera pas. Il ne vous abandonnera pas. Et je finis avec un verset du psaume 147. Et je trouve qu'il est beau parce qu'il scelle bien notre méditation ce soir à travers... Tout simplement, ce qu'il nous est dit, donc le psaume 147, verset 3, écoutez bien. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, l'âme en marmelade. Oui, le sentiment qui a été piétiné, écrasé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Eh bien, les blessures ce soir, vous savez ce que nous allons faire? Les blessures qui sont les nôtres, non pas d'une manière ostentatoire, mais là, assis sur vos chaises, nous allons prier et nous allons demander au Seigneur qu'il vous visite, qu'il vous bénisse. Alors, on va, dans ce temps de prière, qui est aussi enregistré, le temps de prière, eh bien, on va demander au Seigneur qu'il vous visite les uns et les autres. Et de votre place, là où vous êtes, vous allez crier bien fort au Seigneur et de lui rappeler tout simplement ce que nous avons lu, c'est que c'est toi qui pense mes blessures, Seigneur. Alors, on va prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. C'est vrai que tu nous as fait hommes et tu nous as dotés d'un corps. Tu nous as donné, Père éternel, ce véhicule qui est véritablement, Seigneur, eh bien, notre personne extérieure visible qui est notre corps. Mais Seigneur, il y a quelque chose aussi qui fait que nous sommes véritablement des créatures de Dieu, des créatures, des êtres humains, parce que tu nous as donné, Seigneur, une identité invisible. Tu nous as donné une personnalité. Tu nous as donné une identité, Seigneur, ou tout simplement, eh bien, là, quelque chose qui ne se voit pas au regard des autres, mais toi tu connais particulièrement parce que tu ne regardes pas tant à notre corps, que tu regardes à notre âme, que tu regardes à ce que nous sommes, c'est vrai Seigneur, dans cette dimension, et nous voulons te remercier. Merci Jésus, parce que tu n'as pas oublié la troisième dimension, qui est notre esprit. Alors un homme qui n'est pas sauvé, c'est un homme qui possède un corps, qui possède une âme, mais qui ne connaît pas la dimension, la valeur et l'éternité de la vie de l'esprit. Et nous voulons te demander, dans ta bonté, dans ta fidélité, que tu envoies ton salut. Que tu envoies ton salut par ta parole au nom de Jésus-Christ. Et puis tous ceux qui s'approchent de toi, ils viennent souvent, Seigneur, en boitillant. Ils viennent, Seigneur, clopin-clopant. Ils viennent avec des blessures. Ils viennent avec des meurtrissures. Ils viennent parce qu'ils ont été extropiés, Seigneur, par la vie. Ils ont été touchés profondément, déchirés, écorché, Seigneur, nous le disons bien, écorché vif. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande, Seigneur, s'il te plaît, je me fais l'écho ou le porte-parole de mes amis qui sont là ce soir. Seigneur, je te demande que tu panses mes blessures, que tu me guérisses de toutes mes plaies intérieures, parce que c'est dans tes meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés, que tu nous as en effet donné la vraie vie. Seigneur, guéris nos âmes, guéris-nous dans nos sentiments, guéris-nous dans notre affect, guéris-nous, Seigneur, dans toutes ces choses que nous avons pu, sur lesquelles nous avons réfléchi ce soir, parce que dans ces sentiments, il y a en effet des choses qui sont bonnes, et nous t'en bénissons, puis des choses qui sont profondément désagréables. Seigneur, tu n'es pas venu chercher des anges, mais tu es venu chercher des perdus, des hommes, Seigneur, qui sont égarés. Parce qu'en effet, Père éternel, nous savons que tu es venu guérir les cœurs brisés. Qu'il en soit ainsi maintenant, passe dans les rangs. Passe au milieu de nous, Seigneur. Et si nous nous souvenons un tant soit peu de notre enfance, de notre adolescence perturbée, à travers les choix que nous avons faits qui ont été des mauvais choix, à travers, Père éternel, notre vie d'aujourd'hui où nous traînons, Seigneur, des fruits amers et des fruits empoisonnés, et Seigneur, tu es venu pour nous dire: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Seigneur, guéris-nous dans nos sentiments. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci pour ton œuvre. Et je t'accueille au plus profond de moi-même. Merci, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.